avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, où va la société de consommation ? On nous l'avait promis, le pouvoir d'achat était une clé du bonheur. Alors évidemment, c'est une question qui concerne essentiellement les pays riches, rassasiés de biens matériels pour la majorité de la population. On sort des fêtes et c'est déjà les soldes. À la lumière de la pub qui nous inonde, rien ne change. Des prix toujours plus bas pour consommer toujours plus. Mais, les limites de l'hyperconsommation seraient, nous dit-on, de plus en plus palpables. Les hypermarchés s'essoufflent, on le voit avec la crise Auchan en France. La consommation de textiles archipolluantes interroge et le consommateur se demande comment accéder à une qualité de vie plutôt qu'au pouvoir d'achat. Les interrogations sur la consommation sont-elles d'ailleurs vraiment liées à l'approche des effets d'un changement climatique irrémédiable ? On peut se poser la question. Et du côté des pouvoirs publics et des entreprises, est-ce que les lignes bougent ? Nous allons en discuter avec un spécialiste de la consommation. Bonjour Philippe Moati.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de l'OPSOCO, Observatoire Société et Consommation. Vous avez dirigé l'ouvrage « Dépenser la consommation ». Peut-il y avoir une bonne consommation aux éditions EMS ? Et vous êtes aussi professeur à l'Université de Paris, puisque les universités ont à nouveau changé de nom. Vous nous le disiez, « Big is beautiful ».
En apparence.
Voilà. On en revient toujours aux questions de consommation, puisque c'est une expression américaine pour justifier d'avoir toujours par exemple, un plus gros frigo. Alma Dufour, vous appartenez à l'ONG Les Amis de la Terre. Bonjour.
Bonjour.
Et vous travaillez sur les questions de surproduction en textile et sur l'électronique. Et quant à vous, les voisins et les voisines, vos réactions nous intéressent, où que vous soyez dans le monde. D'ailleurs, peut-être que vous souriez à l'idée de repenser la consommation si vous êtes sur un continent qui accède tout juste à des biens indispensables. Je pense notamment à l'Afrique. En tout cas, vous pouvez nous appeler pour critiquer nos interrogations. 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le WhatsApp. Et puis en fin d'émission, portrait de l'Afrique qui gagne, comme chaque semaine. Aujourd'hui, on découvrira Morula Zigabe, qui a 27 ans, qui est étudiant à Bukavu, à l'est de la RDC. Il a fondé la Briquette du Kivu, une braise écologique à partir de déchets organiques pour éviter la déforestation. Preuve que la consommation autrement, c'est aussi une question qui peut se poser dans des pays pauvres. Et tout de suite, je vais vous redonner le numéro de téléphone et on va vous donner aussi la parole sur WhatsApp 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
On donne la parole à une auditrice, Ndayawa, qui est entrepreneuse à Dakar et qui a posté un message sur WhatsApp.
Oui, effectivement, je fais attention à ce que je consomme. En matière d'habillement, j'ai mis l'accent sur les matières locales, des matières à 100% coton, le wax et tous les tissus qui sont à 100% coton, pour qu'il y ait une utilité plus longue, plus durable, et plus assurés et qui sont biodégradables. Et j'achète utilement en matière de vaisselle aussi. Je mise plutôt sur la matière inox de première qualité qui ont une durée de vie beaucoup plus longue et éviter au maximum la matière plastique. Et même en matière d'alimentation, j'évite le plus de consommer des produits qui sont trop chimiques, trop artificiel déjà, de beaucoup miser sur la culture bio, comme faisaient nos grands-pères ici en Afrique, c'était ça hein, en premier lieu. Et il y avait moins de maladies que maintenant. Pendant qu'on parle de développement agricole et autres, on peut faire un retour en arrière pour faire les choses en toute simplicité, pour vivre mieux. Je crois que tout le monde devrait s'y mettre, et maintenant, sans attendre.
Ouais, est-ce que tout le monde peut vraiment s'y mettre ? C'est la question. Qu'est-ce que vous pensez du témoignage de cette auditrice sénégalaise, Ndey, Alma Dufour de l'ONG Les Amis de la Terre ?
Je suis très agréablement surprise aussi de ce témoignage,
parce que c'est souvent pas le narratif et l'histoire qu'on va raconter aussi sur justement les populations dans les pays plus pauvres, on va dire, que les pays occidentaux ou que la France, de dire voilà, ce qu'ils veulent, c'est forcément accéder à la consommation, c'est forcément un bienfait, ce qu'on leur a apporté à la société industrielle est forcément que du bonheur. Alors que là, en fait, on comprend bien qu'à la fois, évidemment, tout le monde veut mieux vivre, et que bien sûr qu'en fait, y a des besoins dans ces sociétés qui ne sont pas encore assouvis, mais que malgré tout, le modèle de développement qu'on leur a apporté crée aussi des maladies, crée aussi des problèmes, et qu'ils s'en rendent très bien compte, et qu'ils sont aussi prêts à accepter une société différente et à changer et aller vers un autre modèle.
Philippe Moati, est-ce qu'il peut y avoir une convergence des remises en question ou pas, où les mondes sont trop différents et les écarts sont trop différents?
Alors, il faut bien reconnaître qu'on a montré une vitrine extrêmement aguichante et on ne peut pas reprocher aux populations des pays émergents de vouloir rentrer dans la boutique. Ça paraît logique. Ceci dit, on n'est pas obligé de passer par les mêmes étapes, ni même de faire le même chemin plus rapidement. Peut-être que les pays qui accèdent aujourd'hui à la consommation de masse pourraient prendre bénéfice de la situation que nous vivons plus loin dans notre cycle pour éviter de passer par les mêmes erreurs.
Ce n'est pas du tout ce qui est en train de se produire. Alors, pas forcément pour l'Afrique, quoique les centres commerciaux qui se construisent aujourd'hui en Afrique, comme ça a été le cas sur le continent sud-américain, c'est l'activité du week-end. Ça a remplacé des activités culturelles, traditionnelles, de liens sociaux, par exemple.
Oui, on a affaire quand même à un rouleau compresseur. Il faut bien comprendre, par ailleurs, que les grands acteurs de la consommation, que ce soit les industriels ou les distributeurs, sont un petit peu en panne de croissance sur les marchés, sur les pays riches. Hein. Donc les pays émergents, c'est le nouvel Eldorado. Le modèle commence à se gripper chez nous. Là-bas, on les accueille à bras ouverts. Donc effectivement, le scénario le plus probable, c'est qu'on exporte notre modèle dans ces pays très peuplés, en forte croissance économique et démographique, et que finalement, on ne fasse qu'exacerber les problèmes environnementaux qui sont devant nous.
Quoi. Ouais, et c'est vrai que l'Afrique accueille à bras ouverts des modèles d'hypermarchés, notamment d'Auchan, parce que ce sont des produits moins chers, avec des normes sanitaires plus importantes que ce qu'on peut acheter sur les marchés, par exemple. Donc, qui pourrait s'en plaindre?
Ouais, effectivement, et c'est intéressant ce débat parce que on voit aussi qu'il y a une espèce de politique de développement durable à double vitesse chez les grandes entreprises qui vont du coup dans les marchés occidentaux dont on vient de parler saturer, commencer à défendre une image plus verte, avoir différents standards de qualité de produits et continuer à se développer massivement et envoyer des produits à dire de plus bas de gamme et avec un impact écologique encore pire dans justement les nouveaux marchés, les marchés émergents, et donc ils ont un peu une deux faces.
C'est ça.
Un sourire écologie pour les occidentaux. On va dire, et puis il continue à envoyer l'ancien modèle de développement dans les pays émergents.
Alors évidemment, on attend vos réactions, 33 1 84 22 71 71. Je vous propose maintenant d'écouter un témoignage en France. Camille, elle a 34 ans, elle est enseignante. Elle habite à Paris avec son conjoint, qui est également enseignant, et leur petite fille Madeleine, 3 mois. Alice Milo s'est rendue chez eux, un appartement presque 100% composé d'objets d'occasion.
Chez moi, la plupart des choses sont de seconde main, c'est-à-dire que les meubles sont de seconde main, les vêtements sont de seconde main, l'électroménager est de seconde main. J'ai un béret rouge que j'ai acheté il y a 10 ans à peu près, dans un vide-grenier à 1 euro. Et alors, je me suis toujours posé la question, si on achète quelque chose vraiment pas très cher, ou est-ce qu'on lui accorde beaucoup d'importance? Et moi, oui, quand même, parce que ce béret, je l'ai perdu plusieurs fois, je me suis toujours démenée pour essayer de le retrouver. Mais j'aime beaucoup l'idée que... c'est très important pour moi que ces objets ils aient déjà été aimés par d'autres propriétaires. C'est pour ça que l'objet neuf m'intéresse très peu au final. Et c'est important pour un peu tous les objets ici. Il y a plein d'objets, par exemple, je vais les avoir achetés sur le Bon Coin et je vais les chercher chez des gens. Par exemple, j'ai acheté un coussin d'allaitement. Et je suis allée le chercher un peu loin, à Neuilly, dans une famille un peu bourgeoise. Mais j'ai adoré venir chez eux et savoir que ce coussin d'allaitement, sans doute, il a été très utilisé. Il y a eu 3 enfants, il y a une dame qui a sans doute allaité dessus. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en fait. Et le fait vraiment d'avoir des objets, je sais qu'ils ont été utilisés. Pour ma fille, là, pour Madeleine, on m'a offert beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements que je réoffre à mon tour. Mais peu importe si c'est joli, pas joli, à mon goût, pas à mon goût. Surtout que je me dis toujours, pour un bébé, pourquoi j'achèterais quelque chose de neuf? Alors, ça peut paraître radin de penser comme ça, mais c'est plus je vais faire re-rentrer ces vêtements dans la grande communauté des parents qui cherchent des vêtements pour leurs enfants après. Dès qu'elle grandit, je vais redonner en fait ces vêtements. C'est des vêtements qui servent très peu, c'est pas des vêtements qui vont être portés 10 ans. Donc moi, j'attache absolument aucune importance au fait d'avoir quelque chose de neuf pour elle.
Vous lui avez rien acheté de neuf à votre fille ?
Non, c'est vrai. Et ça a choqué un peu dans ma famille. Ma mère, par exemple, m'a dit quand même, pour la naissance, il faudrait que tu lui achètes un ensemble neuf. Et elle y accordait beaucoup d'importance. Mais là, je vais parler de quelque chose d'un peu familial, mais c'est vrai que je crois que le fait de se sentir à l'aise avec le fait de récupérer, avec le fait d'avoir des choses qui ne sont pas neuves, c'est très lié à un statut social. C'est que moi, je me sens très légitime dans ma vie pour faire ça. Je n'ai pas de honte par rapport à ça. Et ma mère, qui vient d'un milieu rural, pour elle, c'est important le neuf. C'est un marqueur social, en fait, d'avoir des choses neuves. Et d'ailleurs, on le voit bien, moi, quand, par exemple, je vais souvent chez Emmaüs, je vois bien que moi, bah, je suis ma petite bourgeoise de base, c'est-à-dire je viens, j'achète des choses, et ça ne me pose pas de problème parce que je ne suis pas en nécessité. Mais il y a des personnes qui viennent chez Emmaüs et qui ont un peu plus honte. Et pour elle, c'est important, mon histoire d'acheter d'occasion, elle le comprend politiquement, et éthiquement, et écologiquement. Mais je pense en termes sociaux, pour elle, c'est plus compliqué d'acheter d'occasion. Et alors que mon père, qui vient d'une famille plus bourgeoise, intellectuelle, plus lettrée, l'occasion ne pose absolument aucun problème, au contraire, on trouve ça très bien. J'essaye quand même de ne pas avoir d'achats inutiles. C'est-à-dire que souvent, par exemple, je vais m'écrire sur une petite liste, il me faut tel objet. J'ai besoin, par exemple, je sais pas, d'un caddie, d'un frigo, d'un saladier. Si c'est un achat vraiment nécessaire, je vais aller regarder très rapidement sur Le Bon Coin, sur Internet. Si ça peut attendre, moi ça m'est arrivé d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans pour acheter quelque chose. Là, je voulais un caddie, j'ai attendu 3 ans. Pour trouver un caddie pas cher, pas très loin de chez moi. J'allais pas même acheter un caddie neuf parce que je trouve ça compliqué de rajouter encore des objets au monde. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai besoin de me dire s'il y a déjà ces objets dans le monde et qu'il y a des gens qui cherchent à s'en débarrasser, je préfère continuer à utiliser ces objets déjà, qui ont déjà eu une utilité.
Si vous achetez un four d'occasion, vous n'avez pas la certitude qu'il est en bon état et qu'il va pas vous claquer dans les doigts au bout de 2 jours en fait.
Oui, c'est un risque à prendre. J'ai presque l'impression, mais là je me considérerais un petit peu comme Sainte Thérèse, que je suis là pour qu'ils vivent leur mort, c'est-à-dire pour les user jusqu'à la fin. Quand je vois des tas d'ordures dans la rue où il y a des choses qui marchent, ça me fait vraiment quelque chose. Ça me fait vraiment mal au cœur, parce que d'un point de vue écologique, je trouve ça vraiment problématique. Donc, le fait d'avoir des objets qui peuvent effectivement être en fin de vie ou s'arrêter de marcher chez moi, je vois pas trop le problème.
Et parfois, vous n'êtes pas... dégoûté de récupérer des affaires des autres d'un point de vue purement hygiénique, par exemple, est-ce que ça vous pose pas de problème d'acheter des chaussures qui ont appartenu à quelqu'un? Les chaussures, c'est quand même quelque chose qui est un peu intime.
Quasiment toutes mes chaussures sont d'occasion. Et c'est vrai qu'au début, alors je me souviens même ma mère qui me disait « Ah non, mais tu peux pas acheter des chaussures d'occasion, c'est sale, c'est peu hygiénique. » Je comprends. Et au moment où je les achète, je pense à ça. Et surtout, si je suis dans un vide-grenier, qu'une personne me les vend, j'y pense. Je pense à ses pieds, bon. Et une fois que c'est chez moi, l'objet, c'est le mien. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui seraient choqués, mais mon soutien-gorge, c'est un soutien-gorge d'occasion, par exemple. J'ai pas de collant ou de petite culotte d'occasion. Mais oui, j'ai des chaussures, j'ai des soutiens-gorge d'occasion, j'ai des t-shirts d'occasion.
Si vos revenus demain étaient multipliés par 10 parce que voilà, vous aviez une super promotion, vous continueriez à faire ça?
Oui, oui, oui. Je pense que j'ai eu des variations de salaire au cours de ma vie et j'ai eu des salaires plus bas qu'aujourd'hui et des salaires plus hauts qu'aujourd'hui. Ça n'a absolument pas changé ma façon de voir les choses. C'est pas une dimension purement économique.
Alma Dufour, Philippe Moati, qu'est-ce que vous évoque ce témoignage, Philippe Moati?
Ah, bah plein de choses.
Alors, ça représente quoi? 0,001% de la population?
Non, je le prends dans l'envers. Selon nos enquêtes, 60% des Français disent avoir acheté au moins un produit d'occasion au cours des 12 derniers mois. Donc, l'achat d'occasion, c'est rentré dans les mœurs.
Au moins un produit.
Au moins un produit, en fait, c'est pas un. C'est une fois qu'on a pris le coup, ça devient une habitude. Alors là, on est sur quand même un cas un peu limite. D'ailleurs, j'en veux pour preuve la justification qu'elle est donnée. Ici, c'est en gros, c'est conçu comme un geste responsable. Et au-delà d'ailleurs de la responsabilité, il y a quelque chose qui relève un peu de l'animisme. Hein, les objets auraient une âme.
Le fétichisme des objets d'occasion.
Oui, il y a quelque chose d'intéressant. On cherche un produit qui a du sens en quelque sorte. Et moi, ça résonne avec moi sur le... Pas pour moi, pardon, sur le... sur le manque de sens dont souffrent aujourd'hui les sociétés occidentales. Et vu la place que prend la consommation dans nos vies, il n'est pas étonnant finalement qu'on cherche du sens à travers sa consommation, même si c'est une consommation qui n'est pas dans le cœur du système. Quoi. Donc là c'est extrêmement intéressant. Alors par contre, là où ce n'est pas significatif et représentatif de l'ensemble de la population, c'est quand on interroge les gens qui achètent d'occasion et qu'on leur demande pourquoi, arrivent en premier et loin devant. Hein.
C'est moins cher.
Et en général, les économies qu'on fait ici, eh bien, on en profite pour dépenser ailleurs. Quoi. Donc l'effet du marché de l'occasion sur l'impact écologique de la consommation, il est encore à démontrer, parce que c'est en fait, il y a un effet rebond qui est tout à fait considérable. Donc là, cette posture qu'on vient d'entendre, elle est loin, loin d'être représentative, et c'est typique d'une population caractérisée par un niveau de capital culturel élevé et qui est un peu en dissidence par rapport au modèle de consommation de masse. Mais cette manière de voir la consommation est très répandue dans les médias, mais quand on regarde sa représentativité statistique dans la population française, c'est très, très, très minoritaire.
Ouais. Néanmoins, Alma Dufour, c'est vrai que vous, en plus, qui appartenez à la jeune génération, travaillant dans les ONG, acheter beaucoup de produits d'occasion, ça ne vous stigmatise pas, ça ne vous exclut pas de la société. Vous ne sentez pas...
Non, mais j'aimerais bien revenir sur ce qui a été dit, par contre, parce qu'effectivement, c'est tout à fait vrai. En fait, aujourd'hui, le marché d'occasion se développe énormément, mais les niveaux de production de produits neufs continuent d'augmenter. Et effectivement, on se retrouve face à une situation... médiatico-politique, où en fait on va vous dire que le marché et donc la société est en train d'évoluer tout naturellement toute seule vers une rationalisation de nos modes de consommation qui irait du coup dans le sens de la lutte contre le changement climatique, de la lutte contre la crise écologique, et qui en fait ce n'est pas du tout la réalité. Et comme disait monsieur Moati, en réalité effectivement les niveaux de production de neuf continuent d'augmenter. On en est à peu près à 40 vêtements neufs par habitant français mis sur le marché l'année dernière, à peu près 13,5 produits électroniques, alors que c'est des produits qui sont censés durer plusieurs années de vie. Donc ça, c'est les niveaux. Et ça, c'est ce que, disons, c'est ce dont les politiques ne parlent pas, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les alternatives et les nouveaux modèles ne remplacent pas, ne se substituent pas à l'ancien monde productiviste, mais viennent s'y rajouter. Et donc, c'est pour ça que nous, en tant qu'amis de la Terre, et je reviendrai là-dessus, et avant de parler de moi en tant que jeune génération, on va dire, c'est pour ça qu'aux amis de la Terre, effectivement, on demande à ce qu'il y ait des contraintes réglementaires, puisqu'en fait, le marché les gens ne s'adaptent pas à la crise écologique comme on pourrait le penser à travers...
Ça veut dire que du coup, on a toujours plus d'objets, de biens de consommation chez soi et dans sa vie, du coup, si on a l'occasion plus le neuf et qu'on ne cesse d'acheter toujours plus de neuf.
Alors, Philippe Moati, ça serait à mesurer. En réalité, je n'ai pas connaissance d'études en France, en tout cas, qui auraient compté le nombre d'objets dont on dispose. Attention, la consommation continue d'être en croissance. Mais elle se tertiarise. Certains observateurs, de manière assez imprudente, parlent de déconsommation parce qu'ils observent une petite baisse de l'activité dans le circuit de la grande distribution.
Ça veut dire quoi, la consommation se tertiarise?
On dépense notre argent dans des services, exactement.
Par exemple,
restaurants, sorties, vacances. Alors, ça ne veut pas dire que c'est neutre en termes de CO2,
hein.
Loin s'en faut.
On a quand même 22 millions de Français
et notamment
qui partent en vacances.
Notamment les plus jeunes, et ce qu'on appelle les hipsters, c'est-à-dire les jeunes cultivés qui vivent dans les grandes villes, etc., qui ont un discours très critique à l'égard de la consommation de masse et qui sont sensibilisés aux enjeux environnementaux, ont une consommation sont hyper consommateurs, mais hyper consommateurs d'expérience. Donc ils veulent vivre des moments forts, ce qui veut dire qu'en fait leur consommation est très tournée vers les services, mais ça ne veut pas dire qu'elle est neutre en carbone, loin s'en faut.
Et puis j'ajouterais, c'est parce que je donnais les niveaux de production qui ne sont effectivement pas forcément les niveaux de consommation et en fait de détention d'objets. Les niveaux de production sont ceux-ci, c'est-à-dire les mises en marché enregistrées auprès de l'État français tous les ans, donc ce que je vous décrivais. D'ailleurs, sachant que c'est en plus moins que la réalité, vu qu'aujourd'hui, avec le e-commerce, il y a énormément de produits qui arrivent sans être déclarés à la douane. Et en réalité, c'est aussi illustratif qu'il y a un décalage et qu'il y a un système de production qui n'est pas forcément soumis à la demande du consommateur aussi, et qu'il y a une machine de production qui fabrique des objets, qui continue à tourner, quand bien même, effectivement, il y ait des tendances de consommation qui puissent changer un petit peu chez les Français, par exemple, comme le décrivait M. Moati.
Le fond du problème, c'est en fait la logique économique qui est derrière. C'est-à-dire que le capitalisme se conçoit très difficilement sans croissance. Et dans le modèle actuel, la croissance, elle passe par les volumes. Donc c'est le fond du problème. C'est-à-dire que les entreprises ne sont prospères que si elles vendent toujours plus en quantité.
Donc si on prend l'exemple de la crise des supermarchés Auchan, où clairement le modèle de gigantesques hypermarchés semble assez dépassé, et puis c'est vrai aussi qu'en tant que consommateur, enfin, à la lumière des éclairages médiatiques, on voit bien que les locaux immenses sont à chauffer ou bien à climatiser l'été, ça semble là aussi un modèle un peu dépassé. Est-ce que ça démontre une remise en question de la consommation, ou au contraire simplement un déplacement de la consommation vers le e-commerce e-commerce, vers des enseignes qui proposent des prix cassés, etc. Philippe Moati.
Parce que
là, c'est quand même un gros sujet au champ en ce moment avec les plans sociaux, etc.
Il y a un décalage entre les attitudes et les comportements. C'est-à-dire que, par exemple, dans nos enquêtes, on voit monter la critique de l'hyperconsommation. Pas seulement du point de vue des intellectuels et des journalistes, hein, mais y compris de la population. Par exemple, 56% des Français que nous avons récemment interrogés nous ont dit vouloir consommer mieux. Et parmi ces 56%, 36% nous disent être prêts à consommer moins pour pouvoir consommer mieux. Et ce sont des chiffres qui ont progressé fortement au cours des dernières années. Donc, visiblement, il y a une sorte d'insatisfaction et une volonté de passer à autre chose. Pour autant, quand on regarde les données macroéconomiques, on voit que la dépense de consommation des ménages suit étroitement l'évolution du pouvoir d'achat. S'il y avait des consommations et prises de distance par rapport à la consommation, on devrait voir augmenter le taux d'épargne, tout simplement, oui. L'argent, ce qui ne serait pas dépensé.
Mais alors, ça veut dire quoi, en dehors du fait que les consommateurs disent des choses et font autre chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont prisonniers d'une spirale, du marketing, de la pub, des prix bas, des Black Friday, de tout ça?
On est effectivement d'abord, on est contraint par l'offre disponible. Vouloir consommer autrement, certes, mais est-ce qu'on a encore les moyens de consommer autrement? Est-ce que l'offre existe? Alors, elle est en train de se développer, hein, malgré tout. Mais c'est quand même une première question. Et ensuite, il faut bien comprendre, ça boucle avec ce que je disais tout à l'heure, l'incitation à consommer continue, et avec des moyens de plus en plus sophistiqués et efficaces, parce que la logique économique des entreprises qui est derrière, c'est de vendre toujours plus. Donc, si on veut s'attaquer à ce problème, l'arme réglementaire, est, à mon avis, est absolument incontournable.
Hein.
Mais il faut aussi réfléchir à des business models d'entreprise, des modèles économiques d'entreprise qui reposent moins sur les quantités vendues, mais peut-être plus sur une valeur immatérielle.
En même temps, vous dites dans le livre « Dépenser la consommation » que du côté des entreprises, réduire les emballages, la consommation d'énergie, c'est forcément bénéfique pour les entreprises et donc c'est bénéfique pour le changement climatique.
Oui, il y a une zone, disons, de convergence des intérêts. Réduire les consommations d'énergie, faire la chasse au gaspillage.
C'est un gros sujet, quand même.
Oui, faire la chasse au gaspillage, là, on réduit les coûts et on réduit l'impact environnemental. Ça va très bien, si vous voulez. Mais dès lors que la lutte contre le changement climatique affecte les performances économiques des entreprises, là, ça ne marche plus. Quoi.
Tout à fait. Pour ajouter à ce qui vient d'être dit, en fait, là, oui, effectivement, c'est des sujets, mais il faut bien comprendre aujourd'hui. C'est que, notamment par exemple le textile, je prends cet exemple, où c'est vraiment un secteur où il y a une guerre des coûts extrêmement forte entre les acteurs. Donc qu'est-ce qui se passe dans une guerre des coûts? C'est qu'ils vont délocaliser dans des pays où la production est la moins chère, et notamment le Bangladesh, la Chine, etc. Comment les usines fonctionnent au Bangladesh et en Chine avec des usines, des centrales à charbon? Pourquoi? Donc là, on voit bien que là, et le charbon, on sait que c'est vraiment l'énergie fossile qui émet le plus de gaz à effet de serre, et donc le processus de fabrication du textile dans les usines, c'est ça qui émet le plus, bien plus que les emballages et même le transport des vêtements jusqu'à chez nous. Et en fait, le textile est aujourd'hui le quatrième émetteur de gaz à effet de serre mondial. Donc on voit bien que oui, sur certains sujets, on peut trouver à un certain moment des points d'intérêt, mais en fait, ce n'est pas une logique, absolue. Et en réalité, aujourd'hui, avec la délocalisation, avec le pouvoir d'aller s'implanter un peu partout et de baisser les prix de fabrication, en fait, c'est plutôt une tendance qui est contraire à la lutte contre le changement climatique plutôt que vertueuse, quoi.
Les arguments du marketing vert, est-ce que les consommateurs y sont sensibles? Je ne parle pas de l'achat de produits bio où là, directement, les consommateurs voient leur intérêt purement personnel pour leur propre santé, mais pour le reste?
En réalité, là aussi, hein, quand on interroge en profondeur les consommateurs, y compris ceux d'ailleurs qui mettent en avant un souci pour l'écologie très, très marqué, c'est rarement déconnecté d'un intérêt personnel, en réalité. Et d'ailleurs, souvent, les inquiétudes qu'on a pour la planète se double d'une inquiétude pour soi. En fait, si on porte atteinte à la planète par un effet de ricochet, pour soi, pour ses enfants, pour sa santé, pour son avenir, pour son confort de vie, etc. Donc, on est quand même dans une société très hyper individualiste. Et donc, quand on veut toucher les gens, quand on veut les inciter à changer de comportement, il faut essayer de montrer qu'à la fois, on peut apporter sa contribution au bien-être collectif, hein, mais qu'on peut en tirer un intérêt personnel. Et la seule manière d'envisager un changement à grande échelle des comportements de consommation, c'est d'arriver à trouver des terrains sur lesquels on peut promettre un intérêt au consommateur qui converge avec un intérêt du citoyen. Et alors c'est typiquement le bio, hein, bénéfice santé et bénéfice environnemental.
Parce que nouveau business aussi. Vous prenez l'exemple de la viande et des écrans. Ce sont deux consommations qui posent problème. Où est-ce que ça coince?
Bah, la culture, d'abord, les habitudes. Hein. En tout cas, pour ce qui est de la viande, hein, on ne change pas du jour au lendemain un régime alimentaire qui est inscrit dans la culture d'un pays. Pour autant, ça bouge. Hein, ça bouge. La consommation de viande est orientée à la baisse. Alors, ce n'est pas un effondrement. Hein, et on est clairement sur le régime du moins mais mieux. Donc, il est en train de se produire sur la viande, très lentement, j'en conviens. Hein. Ce qui s'est produit, par exemple, sur le vin, il y a déjà quelques années, où la consommation en volume de vin s'est énormément contractée, mais on est monté en gamme. Et en fait, ça, c'est le modèle qu'il faut qu'on... qui doit nous inspirer globalement. L'objectif, si on veut concilier la prospérité économique avec les enjeux du développement durable, il faut monter en gamme. L'une des voies qu'il faut explorer, c'est comment on fait monter en gamme, comment on incite les consommateurs à acheter moins en quantité et plus en valeur. Typiquement sur l'habillement, arrêter d'additionner des vêtements de mauvaise qualité, en acheter moins, mais en acheter de meilleure qualité, plus cher, donc que ça absorbe du pouvoir d'achat pour moins de matières consommées.
Mais comme on disait, effectivement... comme on disait au début, enfin, il y a une question de précarisation aussi d'une partie de la société qu'on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes et qui rend ce discours de la montée en gamme, s'il n'y a pas de politique...
Totalement inaudible.
Inaudible s'il n'y a pas de politique de transvasement du coût des dépenses sur d'autres secteurs. C'est-à-dire aujourd'hui, on dit voilà, mais c'est exactement ce qui s'est passé quand on a fait les actions contre Amazon. On a bloqué Amazon le jour du Black Friday. On est allé sur les plateaux télé. On nous expliquait, vous êtes en train de taper sur les pauvres, vous et les écologistes. Je dis non, déjà, on le fait avec les Gilets jaunes et en plus avec les syndicats. Mais en réalité, on nous disait, ils n'ont pas le choix. En fait, le seul vecteur d'ajustement pour les populations précaires aujourd'hui se fait sur la consommation et sur la délocalisation. Donc la production
parce que
à bas
c'est coût, la source d'emploi
et l'exploitation d'autres populations à travers le monde. On dirait que c'est la seule manière de réorganiser le pouvoir d'achat des Français pour qu'ils puissent se sentir un peu continuer à vivre plus ou moins bien. Or en fait il y a énormément
mais c'est pas
de...
que le pouvoir d'achat, c'est l'emploi aussi là qui est en jeu.
L'emploi là justement sur les questions
la consommation c'est aussi créateur d'emploi.
Mais enfin oui il y a la question de l'emploi effectivement, mais typiquement justement et pour qu'on s'attaque à Amazon par exemple, ce qui est assez ironique aujourd'hui, c'est qu'on a des entreprises qui arrivent dans le e-commerce, Amazon, Cdiscount, etc., qui font le tour de force de faire de la surproduction, encore plus qu'avant, et en plus de détruire des emplois. Ce que M. Mounir Majoub disait, c'est qu'à peu près Amazon détruit à peu près deux fois plus d'emplois qu'il n'en crée en France aujourd'hui. Donc on est dans une nouvelle phase que les pouvoirs publics ne semblent pas avoir envie de stopper. Donc c'est même plus ce discours de « oui, il faut de la consommation pour créer des emplois ». Là, aujourd'hui, il est menacé par le commerce lui-même. Donc c'est une vraie question. Et la question de la... de la variable d'ajustement pour finir là-dessus. Effectivement, une montée en gamme, il faudrait que les prix, enfin que les produits valent leur vrai prix, en fait. C'est, ne serait-ce que pour payer mieux les ouvriers à travers le monde, puisque c'est absolument injuste pour que les gens pauvres en France puissent bien vivre, qu'on exploite des gens pauvres en Chine ou au Bangladesh. Ouais. Mais la question, c'est qu'il y a d'autres variables d'ajustement, notamment, je ne sais pas, le logement. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour que les gens aient un peu plus d'argent à mettre dans leur panier consommation pour une consommation un peu plus responsable et en moindre quantité. Mais qui passe par la rééquilibration des coûts du pouvoir d'achat sur d'autres secteurs.
Qu'est-ce que vous attendez là, de la Convention citoyenne sur le climat qui réunit 150 Français qui ont été tirés au sort, hein, donc pas des gens forcément ultra privilégiés, pour réfléchir, pour faire des propositions d'ici avril prochain pour réduire d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans une justice dans une logique de justice sociale? Qu'est-ce qui peut en sortir, Alma Dufour?
Écoutez, c'est un peu difficile à dire à ce stade. J'ai rencontré les citoyens tirés au sort du groupe Consommer, notamment, donc qui s'occupent de ces questions-là. Donc on a notamment eu des grandes discussions sur le textile. Il y avait quelques citoyens qui voulaient pousser des quotas sur le textile, donc carrément des quotas, c'est-à-dire faire baisser chaque année la production de neuf de façon réglementaire. Accompagné de mesures de redistribution, etc. Et en réalité, ils ont été assez... comment dire ? Il y a des experts, on va dire, dans ces commissions qui ne sont pas totalement neutres. On va dire, l'État a quand même pas mal le droit de regard sur ce qui se passe à l'intérieur de ces commissions. Nous, moi, j'y ai été qu'une fois et depuis, je suis un peu en dehors. Et c'est pareil pour les autres ONG. Et on ne sait pas jusqu'à quel point les experts juridico-techniques sont en train aussi de verrouiller certaines solutions qui sont considérées comme bien trop radicales pour
les enjeux économiques.
Exactement, c'est-à-dire des quotas, et notamment on lui a répondu vous êtes trop protectionniste madame. Enfin, c'est-à-dire que en fait, c'est sûr, on le sait, de la part de l'État et de la part du gouvernement, un manque de clarté et un manque, enfin, ils n'assument pas, on va dire, que la lutte contre le changement climatique nécessite de reposer à plat complètement le modèle économique aujourd'hui. Ils nous font penser qu'on va réussir à changer et à lutter contre le changement climatique avec des petites modifications à la marge. Et j'ai peur que ce soit un peu le discours qui infuse aussi via la parole des experts dans ces groupes, sachant que le changement climatique est un sujet extrêmement complexe et que du coup, voilà, c'est des citoyens qui sont très, très désireux de bien faire, vraiment, vraiment, qui sont très, très intéressés par la question et qui donnent de tout, enfin, qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais j'ai l'impression que voilà, ils sont un peu aux mains de d'influences extérieures.
Alors, on le voit, le projet de loi contre le gaspillage et l'économie circulaire, la France a beaucoup de retard quand même à rattraper par rapport à d'autres pays développés, notamment des pays européens d'ailleurs essentiellement. Finalement, par quoi remplacer le fait de posséder, d'avoir? C'est la question que vous posez finalement, Philippe Moati, dans le livre. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui proposent déjà des modèles nettement plus avancés sur qu'est-ce qu'on fait de ses journées et de son temps quand on n'achète plus?
C'est ça. Je ne pense pas qu'il y ait des pays beaucoup plus avancés. On est tous confrontés au même problème. Il est en fait difficilement soluble. Le fond du problème, c'est que si on reste dans une économie capitaliste, on a besoin de croissance. Et la croissance, in fine, repose sur la consommation. Donc on a besoin de croissance de la consommation. Si on accepte ce postulat, il faut faire en sorte que la consommation soit moins consommatrice de ressources. Donc qu'est-ce qu'on a comme possibilité? La montée en gamme dont on parlait tout à l'heure, absorber du pouvoir d'achat sur moins de quantité, et peut-être des modèles économiques alternatifs de type économie de la fonctionnalité. Alors il y a l'occasion dont on a parlé tout à l'heure, ou la location. Sur les vêtements, il y a certaines startups qui testent des formules d'abonnement où on peut changer autant qu'on veut de vêtements, mais quand on n'en veut plus, on les remet en circulation. Donc, il y a des modèles économiques alternatifs qu'on peut tester. Il faudra voir si effectivement ça a l'impact suffisant sur les enjeux environnementaux. C'est pas du tout évident. Donc, certains nous disent que le problème environnemental ne sera réglé que si on rentre dans une logique de décroissance. De décroissance, qu'on réduise effectivement la consommation et l'activité économique.
C'est la radicalité des Amis de la Terre
Écoutez, c'est la radicalité des scientifiques même. Ils n'emploient pas forcément le mot décroissance, mais là, au vu des prévisions qu'on nous donne, qui sont complètement hallucinantes en fait, elles sont cataclysmiques. C'est-à-dire, juste quelques chiffres pour rappeler, parce que c'est important de rappeler ce dont on parle en fait, parce que le mot crise écologique, changement climatique, ça devient des mots abstraits, on sait même plus ce que ça recouvre. Mais là, on en est à peu près à des prévisions de plus 7 degrés de réchauffement en 2100. Ça veut dire plus de centaines de millions de réfugiés climatiques, si ce n'est plus d'un milliard. Ça veut dire des zones entières du monde qui vont être inhabitables. Ça veut dire vraiment la fin d'un monde tel qu'on l'a connu aujourd'hui. Enfin, vraiment, pas la fin du monde, mais en tout cas, des guerres, énormément de guerres, de la baisse de la production alimentaire. Donc, c'est très, très grave ce qui se passe. Et au vu de ce qui se passe, les scientifiques commencent à sortir de ce devoir de réserve, commencent à vraiment dire qu'il faut remettre complètement à plat le modèle économique. Et il faut sortir de la croissance. Et donc, c'est même pas la radicalité des Amis de la Terre en tant qu'ONG. Là, c'est toute la communauté scientifique qui en arrive à ce point de constat-là, qu'effectivement, la société capitaliste, si elle est basée sur la croissance, ne peut plus continuer. Enfin, ou alors, c'est un choix entre et les 7 degrés en 2100.
Mais s'il n'y a plus de croissance, vu les gains de productivité que réalisent les économies, on détruit des emplois. Et on est dans un cercle vicieux. Donc, ça veut dire qu'il faudrait, au minimum, si on reste dans l'hypothèse d'une économie capitaliste, et pour l'instant, on n'en voit pas d'autres pointer le bout de son nez, il faudrait convertir les gains de productivité en réduction du temps de travail. Ouais. Et donc déconnecter les revenus de plus en plus de la contribution au travail. Vous voyez, le changement global qu'il faut engager, c'est tout simplement monstrueux.
Et comment faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État si on consomme moins, il y a donc moins de TVA. Si il y a moins d'emplois, on cotise moins. Comment on fait,
Il faut que l'impôt s'appuie sur autre chose, sur une autre assiette, notamment la valeur ajoutée.
Parce que beaucoup réclament, par exemple, pour donner un coup d'accélérateur au marché de l'occasion, de la réparation notamment aussi, que les pouvoirs publics pourraient davantage aider ces secteurs-là avec moins de ponctions de cotisations. Mais là aussi, ça pose un vrai problème. Est-ce que vous, par exemple, votre ONG demande ça?
Oui, on a poussé ça. Enfin, ça pose un vrai problème. Il faut quand même savoir que le marché de la réparation, c'est rien par rapport au marché de la consommation. Donc, ce serait vraiment un peu symbolique pour Bercy, pour la question de l'argent public, d'une TVA réduite sur la réparation, par exemple. On nous l'a refusé de façon catégorique. Ça fait 2 ans qu'on demande à Bercy. Et en fait, ils ne souhaitent pas imposer des nouvelles niches sur la TVA. Mais il faut quand même, par exemple, savoir qu'il n'y avait pas de TVA sur les eaux, par exemple. Il y a eu plein de négociations de baisse de la TVA, de plein de petits lobbies comme ça.
On parlait des eaux minérales ?
Non, des eaux, les parcs zoologiques, pardon, excusez-moi. Ou sur les organisations d'événements sportifs.
Ça reste un marché de niche, les eaux.
Exactement, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la TVA sur la réparation, on nous l'a refusée. Donc on est passé par un mécanisme de financement de la réparation qui est maintenant adopté dans la loi. Donc ce sera en fait se baser sur l'éco-contribution qui est aujourd'hui une toute petite... Effectivement, donc c'est pas on enlève, si on rajoute, malheureusement, effectivement c'est les consommateurs et les entreprises aujourd'hui qui payent en partie chacun l'éco-contribution. Sauf que justement, nous on avait proposé un mécanisme qui permette de la faire reposer sur des produits où elle est très faible aujourd'hui, comme le smartphone où elle est de 2 centimes, alors que c'est le produit le plus polluant. Et sur des petits produits, voilà, où en fait ce serait complètement $1, vu que le produit coûte déjà 1000 euros l'iPhone 10, et justement pas la faire remonter sur un frigo, une machine à laver, etc. On a en grosse négociation, les fabricants refusent ce mécanisme, donc pour l'instant, ils ont un peu tranché la poire en deux, et on sait pas trop ce qui va en... Ça va, en fait, tout ça va dépendre d'un décret d'application et on sait pas exactement ce qui va en être finalement.
Est-ce qu'on peut s'attendre, Philippe Moati, comme certains le disent, à un vrai changement avec les nouvelles générations? Ou est-ce qu'en réalité, tout ça sera on va dire très partiel en fonction des revenus, des milieux sociaux, etc.
Alors, au risque de vous surprendre, dans nos enquêtes, nous observons que la sensibilité aux questions environnementales est croissante avec l'âge. Donc, pour le dire autrement, les jeunes sont plutôt moins sensibles aux questions environnementales que leurs aînés. Ça culmine chez les plus âgés, les 68ards, les baby-boomers. Et à l'inverse, l'attachement aux valeurs consuméristes est décroissant avec l'âge. Donc, en gros, pour le dire autrement, les jeunes sont moins sensibles aux enjeux environnementaux, en moyenne évidemment, moins sensibles aux enjeux environnementaux et plus consuméristes.
Ça va, ce que vous nous dites, ça va complètement vraiment à l'encontre de ce qu'on a vu dans les médias, de la mobilisation des nouvelles générations, du phénomène Greta Thunberg, etc.
Un petit bémol sur nos toutes dernières enquêtes, on voit une poussée, disons, de sensibilité environnementale chez les 18-24 ans, chez les plus jeunes, dans nos enquêtes.
Donc,
on ne fait pas les ados. Alors, c'est le phénomène Greta, incontestable. Il faudra voir si ça dure. On sait que le mimétisme est très important parmi les jeunes. Il y a un effet de mode, incontestablement, sans doute avec une certaine sincérité. Il faudra voir l'inscription dans la durée de la sensibilité. Et la traduction dans les comportements.
C'est ça.
Et la traduction dans les comportements.
Avec le fameux paradoxe pour la génération Z, on veut que ça aille vite, on veut acheter vite, en deux clics sur un smartphone, et en même temps, on s'inquiète et on se mobilise.
Mais tout à fait.
Ça peut sembler très paradoxal.
Mais justement, parce que ce qui est intéressant de voir aussi le message renvoyé par ces jeunes, parce qu'on les renvoie souvent à leur mode de consommation, et c'est ce qu'on leur demande. C'est-à-dire, pourquoi vous ne changez pas votre mode de consommation? C'est comme quand M. Macron a dit, plutôt que les jeunes soient dans la rue, j'aimerais qu'ils aient ramassé les déchets sur les plages. Donc c'est un peu cette culpabilisation du consommateur et là du coup de la dernière génération Z. Mais comme vous le disiez juste avant, c'est-à-dire en fait on est dans un système productiviste, capitaliste, qui avec aussi la publicité, etc., le marketing et pas mal de mécanismes nous poussent à consommer. Et ce qui est intéressant dans la voix de ces jeunes, c'est pas leur mode de consommation, c'est ce qu'ils demandent à l'État et ce qu'ils demandent à la politique. C'est que là, ils se politisent avec la question du changement climatique. Et ce qu'ils demandent, c'est des vraies règles, des vraies politiques publiques pour aider toute la société à changer. Et ils ne misent pas forcément sur un changement de comportement individuel
plus
parce qu'ils savent que ce sera trop long.
Sur la production, donc.
Sur la production. Mais du coup, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut retenir et que pas toujours. Enfin, c'est sans fin de se renvoyer la balle sur chaque mode de consommation alors qu'on a besoin d'un changement collectif.
C'est d'ailleurs ce que vous demandez à l'ONG Les Amis de la Terre.
Tout
plus
à fait.
De réglementation sur les modes de production.
Je crois que c'est très très juste. Il faut vraiment arrêter de faire peser la responsabilité du dérèglement climatique sur les épaules des seuls consommateurs. C'est une logique de système qu'il faut changer. C'est pas chacun d'entre nous, en faisant attention à bien couper le robinet pendant qu'on se lave les dents, qu'on va régler le problème. C'est beaucoup plus important que ça.
Et bien, ça sera le mot de la fin. Merci. Alors, c'est pas tout à fait la fin de l'émission, mais vous restez avec nous jusqu'à la fin, tous les deux, Philippe Moati et Alma Dufour. Dans quelques instants, portrait de l'Afrique qui gagne, comme chaque semaine. Et on va donner la parole à un jeune Congolais qui a fondé les Briquettes du Kivu, pas tout à fait éloigné des problématiques que nous venons d'évoquer. Ça sera juste après Dafounix. Trouble sets in, waiting for the dividends. No doubt, not making dollars make sense, but it really doesn't matter that much in the end. I grab the pen, cause what gets me off my mattress is music. The love is deep rooted, it's everlasting. It follows me from the cradle to the casket. Pure satisfaction gathering my soul shattered fragments. At times, man, I wish I was illiterate. Then I couldn't read all the letters that I slipping through my letter slit. Nothing but bills using an aggressive rhetoric, saying give us the dough while we got other means to settle it.
And just as I get to thinking that I better quit, I start practicing verbs, nouns, adjectives, and predicates. And when I'm in that zone, you best to step back a bit. Sometimes I feel inadequate, but when I rhyme, I laugh at it. Then I'm in control, body and soul becomes a whole, being pulled towards the notes like a magnetic pole. I got mad methods of delivering my flow when the crowd's still shivering. Yo, it's not because they cold, they so quivering because I spoke with authenticity. I'm not religious, but music gave me an epiphany. Particle purified, the phonics bringing the best beats. All for now until I fill out another fresh sheet. Oh no, it's happening again. Trouble sets in, waiting for the dividends. No doubt not making dollars make sense, but it really doesn't matter that much in the end. I grab the pen cause what gets me off my mattress is music. The love is deep rooted, it's everlasting. It follows me from the cradle to the casket. Pure satisfaction gathering my soul shattered fragments. Now there's some people that be telling me I better stop and concentrate on my 9-to-5 till my ticker pops. To be or not, that's the question to you. It's bigger rocks and bigger tongues for bigger cracks than play the biggest spots. I go from note to note, concentrate to connect the dots. Beginning at the bottom, brushing my way to the top. Sometimes I got some food for thought.
Soul Searching chez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI et nous allons donner la parole comme chaque semaine pour les portraits de l'Afrique qui gagne à Moroula Zigabé. Il a 27 ans, il est étudiant en licence de philo à l'université officielle de Bukavu et à côté il est aussi éco-entrepreneur depuis 2 ans avec son entreprise La Briquette du Kivu. Il fabrique de la braise écologique à partir de déchets organiques dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo, un pays où la source principale d'énergie reste le charbon. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec vous, Alvan Dufour, du charbon de bois. Charlie Dupio l'a rencontré à l'occasion de son passage à Paris. On l'écoute.
Je suis né dans un petit village dans le territoire de Walungu. Un an plus tard, ma famille s'est déplacée pour Bukavu et c'est là que je grandis. Je suis le dernier d'une fratrie de 7. Mon enfance n'a pas été facile. Je n'ai pas toujours été un enfant gâté. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir des parents qui se sont battus jour et nuit pour que jamais je ne puisse avoir la vie qu'ils ont eue et que je vive le bonheur qu'ils n'ont pas pu avoir. Mes parents, ils ne sont pas allés à l'école. Nous sommes tous allés à l'école. Des fois, on était renvoyés de l'école pour n'avoir pas payé nos frais scolaires et là, ça dépendait. Et dans les classes, le plus élémentaire, on payait par exemple 1 $ le mois. On était à 6.
Que faisaient vos parents ?
Mon papa, il était un marchand. Il a passé la plupart de son temps dans le carré minier en train de vendre les produits de première nécessité aux criseurs. Ils ont par exemple besoin de batteries pour leurs torches, de bottes. En échange, il obtenait une poussière d'or qu'il venait revendre dans la ville de Bukavu. Et ma maman, elle, je ne l'ai jamais vue au repos. C'est une dame qui a fait tout. Elle n'avait pas de métier fixe. Elle cultivait les haricots et cultivait le maïs. Je l'ai vu vendre des pagnes pour dames. Je l'ai vu tisser le panier. C'est mon héroïne la plus préférée. Et maintenant, chaque fois qu'elle a du temps, elle nous donne un coup de main dans la fabrication de briquettes.
En parallèle de vos études en philosophie, vous êtes également éco-entrepreneur, comme on dit. Vous avez monté un projet qui s'appelle La Briquette du Kivu.
Ouais. L'une des chances que j'ai eues, c'est que je lis beaucoup. Et un jour, je me suis posé la question, que faire de ces déchets ? L'Internet m'a dit, mais en Asie, on en fait de briquettes. C'est vrai ça ? Les gens, ils transformaient leurs déchets végétaux en des briquettes aux Philippines.
Ça vous a inspiré ?
Ça m'a tellement inspiré. Chaque année, mon pays, la RD Congo, perd 500 000 hectares de ses forêts. Tout simplement parce que seulement 10% de la population a accès à l'électricité. Nos priorités, c'est d'abord protéger les forêts du Kivu, que sont les Virunga et les Kahuzi-Biega, qui, ces derniers temps, sont menacés de disparition.
Comment vous travaillez ? Qu'est-ce que vous récoltez ? Comment ça se passe ?
Oui, nous sommes actuellement au nombre de 10. Nous sommes tous jeunes. Quand nous nous réveillons le matin, nous faisons les tours de poubelles de la ville en train de ramasser tout ce qui est déchets organiques de Bukavu.
Alors les déchets organiques, qu'est-ce que c'est ?
Ce sont des déchets biodégradables. Je peux donner ici l'exemple des épluchures de canne à sucre, les pots de banane, les pots d'orange, des citrons,
Donc vous fouillez les poubelles?
On fouille les poubelles, on ramasse tout ce qui nous intéresse, on l'amène à Panzi, parce que c'est là qu'est basée notre unité de production, au sud de la ville de Bukavu. Alors, nous séchons nos déchets. Une fois que nos déchets sont séchés, nous les carbonisons. Après la carbonisation, nous obtenons une poudre noire que nous mettons dans de l'eau chaude et nous y mettons aussi les lias pour que ça colle. Et cette braise écologique, c'est ce qu'on appelle briquette parce qu'elle a la forme d'une brique prête à la combustion ou à l'utilisation.
Et vous les vendez combien ?
Nous vendons un sac de briquettes à 10 000 francs congolais. 10 000 francs, c'est quelque chose de 6 euros comme ça. Ça peut aller jusqu'à un mois.
Pour cuire ces aliments avec, pour un foyer ?
Pour un foyer.
Quelle est la différence avec le prix de charbon de bois ?
Un sac comme ça de charbon de bois coûte souvent 18 à 20 dollars.
16 euros.
Ouais.
Comment vous avez réussi à convaincre les habitants que c'était une énergie qui pouvait être intéressante ? Alors le prix est plus avantageux, mais on peut peut-être aussi se dire que ça va peut-être moins bien brûler que le charbon de bois qu'on connaît mieux.
Oui, on a eu tellement de difficultés sur ce point-là, parce que d'abord, nos produits ont souffert de préjugés. Quand les gens ils apprenaient que c'est fait à partir de déchets, ils disaient que non, ça doit être un truc de farceur. Nous, on ne pense pas que des déchets peuvent provenir quelque chose de grand.
En l'occurrence, de l'énergie.
Oui, la chance que nous avons eue, c'est que certains leaders religieux, parce qu'au Congo, les leaders religieux, ils ont de l'influence, ils se sont intéressés à ce que nous faisons. Et ils commençaient à en parler à leurs chrétiens.
Vous œuvrez plus pour la préservation des forêts que pour une véritable gestion des déchets, puisque là, on parle seulement de déchets organiques, on ne parle pas du plastique, d'autres emballages qui aussi sont un vrai problème pour les villes.
On est en train de faire notre part. Je ne m'occupe que des déchets organiques d'abord parce que le produit fini qui en provient, les gens, ils en ont tellement besoin. Mais si par exemple, je me dis que je vais recycler le plastique, qu'est-ce que je vais en faire ? Pour que ça soit durable, il faut que le produit fini soit accepté par la population et à d'autres jeunes aussi de venir innover pour gérer les autres déchets.
Qu'est-ce que c'est pour vous l'Afrique qui gagne ?
C'est une Afrique qui pense aux générations à venir. Et quand l'Afrique pense aux générations à venir, elle les gère de manière durable ses ressources naturelles, sa biodiversité, et ainsi de suite. Qui fait tout pour que les générations à venir vivent dans un environnement sain.
Alma Dufour, alors l'environnement sain, ça concerne aussi l'Est de la RDC, on le voit bien, mais là aussi, il peut y avoir des préjugés, même quand ce charbon à base de déchets est moins cher que du charbon de bois qui déforeste.
Oui, et c'est extrêmement intéressant de voir qu'effectivement, finalement, chaque société, qu'on a parfois un regard c'est essentialiste sur d'autres sociétés que la nôtre et on s'imagine qu'elles sont foncièrement différentes et que les rouages, comme si on était si différents, comme si voilà, on avait un écart de développement, de civilisation industrielle, etc., etc. Et comme si en fait c'était pas exactement les mêmes choses qui rentraient en ligne de compte, à la fois le prix, mais aussi le symbolique qu'on met derrière ce qu'on consomme. Et ça vaut le cas aussi en RDC, alors que pourtant c'est un des pays où il y a le taux de pauvreté le plus fort au monde.
Philippe Moati.
Mais moi, ça m'inspire une réflexion sur... Tout à l'heure, j'ai insisté sur la nécessité de changer un peu le modèle économique. Je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce que cet exemple nous montre, c'est l'importance de l'innovation d'arriver à faire changer les habitudes. Là, on compte sur les autorités religieuses pour faire changer les habitudes. Moi, je pense qu'il y a une énergie dans le capitalisme, notamment dans les grandes entreprises. Si on pouvait canaliser cette énergie pour innover dans des modes de consommation et des produits qui soient respectueux de l'environnement et mettre la puissance du marketing et de la communication pour faire changer les comportements, eh ben, là, je pense qu'on aurait fait un grand pas en avant.
Ah ben, vous voyez qu'on peut arriver à une note positive, alors finalement.
Oui, moi, je dirais qu'on n'est absolument pas contre l'innovation, mais que les liens entre capitalisme, croissance et innovation, je suis pas sûre. Enfin, je pense qu'on peut faire aussi autrement dans d'autres sociétés avec de l'innovation aussi. Parce que là, vous voyez, c'est pas tant la société capitaliste qui a produit cette personne qui a eu une super idée.
Et Moroula Zigabé, il cherche quand même la rentabilité. Pour l'instant, la briquette du Kivu n'est pas rentable.
Ça,
elle a 150 clients, c'est pas beaucoup. Il en vise 500 en 2020.
Il faut passer à l'échelle ensuite. Voilà, si ça reste à 500, ça n'aura pas une grande portée.
D'accord.
Et puis, il projette bien sûr d'ici quelques années d'essaimer dans d'autres villes de RDC. Merci à tous les deux, Alma Dufour, les Amis de la Terre, Philippe Moati, Dépenser la consommation. Peut-il y avoir une bonne consommation aux éditions EMS ? Merci à vous.
Merci à vous. Vous les avez entendus ou découverts.